Alors, donc dimanche dernier, nous avons repris un peu l'origine biblique de l'enseignement chrétien pour qu'on puisse comprendre un mariage chrétien. Et donc de savoir, de nous rappeler des choses qui peuvent être évidentes, comme l'existence de Dieu, le fait que Dieu est un être intelligent et volontaire, et puis c'est le propre des esprits. Un esprit, c'est un être intelligent et volontaire qui n'a pas de corps, qui n'a pas de matière. La particularité de l'esprit divin, c'est qu'il est incréé et qu'il a toujours existé. Tandis que les esprits angéliques sont des êtres spirituels qui ont été créés et donc qui n'ont pas la toute-puissance d'un esprit incréé qui est à l'origine de la vie et de l'être. Eux ne sont pas à l'origine de leur être. Donc, tout ce qu'ils savent, ils l'ont appris. Tandis que Dieu, lui, sait tout. Le passé, le présent et l'avenir. Il est le Tout-Puissant, il est celui qui va créer la matière. Mais avant de créer la matière, il a créé justement les purs esprits que sont les anges. Et avant même la création du cosmos, les anges eux-mêmes sont des créatures extrêmement belles. Et un ange qui se pense voit une très grande beauté, une très grande perfection. Et quand les anges se voient les uns les autres, de la même manière, ils sont émerveillés, comme nous, on voit des images de Hubble, de l'univers, on est admiratif. Et bien pourtant, ce n'est que de la matière et de la lumière. Tandis que pour les anges, eux, qui n'ont pas de matière, leur beauté spirituelle est plus impressionnante que le plus beau des paysages, que les plus belles couleurs. Et cependant, Dieu aime la matière et a créé une quantité de matière extraordinaire dont je vous ai parlé la dernière fois, qui fait la beauté de tout ce que nous voyons. Et quand bien même il y aurait de la vie intelligente, donc spirituelle, ailleurs que sur Terre, nous ne savons pas. Et c'est possible, on s'en soucie pas en fait. La vie extraterrestre, pourquoi pas, mais c'est perte de temps et d'argent, parce que la vie qu'on peut constater sur Terre est déjà bien une occupation suffisante que de vouloir savoir s'il y a quelque chose ailleurs. Et cette vie, elle a commencé par la matière inerte, ensuite il y a une action divine directe pour faire le vivant, et les scientifiques ensuite se posent la question de savoir comment ce vivant a évolué. Les uns vont dire que c'est par hasard, les autres vont dire que c'est l'intelligence divine qui continue à agencer l'ADN et l'ARN des êtres. Dans l'un et l'autre cas, l'Église, la foi nous dit que, et la philosophie d'ailleurs, la métaphysique nous dit que de toute façon il y a l'impulsion première et forcément d'un être intelligent et volontaire et organisateur et prévoyant que cet ARN des plantes ou cet ADN des animaux, en fait ces cellules se compliquent, se développent, évoluent, mais sous la conduite d'un plan d'ingénieurs absolument extraordinaires. Vous voyez, les professeurs en médecine, en fait, sont des personnes, les professeurs en physique, chimie, sont des personnes qui essayent de comprendre comment Dieu a créé. Et ils retrouvent des lois, mais elles existent déjà. C'est pas le hasard. Et donc, ce qui est important, c'est pas une réponse suffisante d'ailleurs. Ce hasard qui n'existe pas, c'est donc une volonté divine, mais puisque nous sommes tirés du monde animal et que Dieu nous a mis une conscience spirituelle comme les anges, nous sommes des êtres à part. Mais des animaux à part, mais on reste animal par notre corps et on est angélique par notre esprit. Donc on est vraiment à la croisée de deux mondes. Et on a beau essayer de dire que nous sommes de purs animaux avec des instincts, on a beau vouloir faire des émissions de télévision où les gens sont à quatre pattes, mangent à quatre pattes, ça sera pour de l'argent ou pour s'amuser. Enfin, l'animal, lui, il se met à quatre pattes pour manger, mais c'est son instinct. Nous, on va copier, on va faire n'importe quoi, mais ça sera toujours conscient. Même l'homme le plus idiot, le plus brutal, aura encore des sentiments et des pensées qui sont propres à l'homme. Mais alors, quelle est l'histoire humaine? Le premier couple humain a-t-il été unique, ou alors nous sommes la vie humaine a pu éclore dans différents endroits de la terre? Selon la révélation biblique, il n'y a eu qu'un seul endroit, et il y a eu un premier homme et une première femme. Et de fait, les sépultures les plus anciennes de l'humanité sont dans le croissant fertile, sont dans la région du Tigre de l'Euphrate. Et ensuite, on trouve peut-être des squelettes isolés, qu'on date au carbone 14, n'est-ce pas? Mais dès qu'il y a homme, en fait, il y a communauté, il y a instrument, il y a outils. Et Yves Coppens, qui n'est pas un grand croyant devant l'Éternel, lui associe nécessairement l'homme à l'outil. Car c'est l'abstraction, et je vous avais parlé du premier degré d'abstraction, qui est la capacité de comprendre ce qu'un être est. On voit un chat, on voit que c'est un animal poilu, à quatre pattes, avec une queue, des oreilles, des moustaches, et des canines, et des griffes. C'est grosso modo, hein. Et quand vous voyez un autre chat, vous dites pas c'est un autre être, vous faites un genre chat. Vous voyez un chat qui a des poils de 10 cm, vous allez dire que c'est on va l'appeler Angora. Il y a un chat qui a des poils ras, on va l'appeler, qui a des zones noires et crème, on va l'appeler un siamois. On va faire des espèces. De la même manière que vous voyez ces chaises, ce sont des plans plats avec 4 pieds et un dossier. Il n'y a pas ici de fauteuil comme la dernière fois, mais vous voyez, ça aussi c'est une chaise, mais elle est de la même espèce que le genre chaise, mais parce qu'elle n'a pas de tissu mais du sky, c'est une autre chaise. Un animal, lui, n'abstrait pas un être précis. Et nous, vous voyez, regardez, elles sont nombreuses et identiques. Un animal voit ça, parce qu'il ne peut pas concevoir le premier degré d'abstraction qui est un être. Et identique à un autre, c'est le deuxième degré d'abstraction, c'est les mathématiques et la quantité. Et le troisième degré d'abstraction, c'est le jugement. Cette chaise est verte et marron. Eh bien, l'animal, il voit une couleur. Il est attiré par une couleur, mais il ne sait pas que c'est une couleur. Mais par contre, son instinct est une science bien plus précise que la nôtre, finalement, dans bien, bien des... Par exemple, les animaux qui ressentent les impulsions magnétiques de la Terre ne savent pas qu'ils ont des impulsions magnétiques de la Terre, mais les suivent et parcourent 4000 km, sans se tromper, en revenant dans le même étang qu'il y a un an. Et on s'est aperçu que les chiens et les chats avaient aussi des sensations magnétiques terrestres. Et qu'ils pouvaient, du coup, en effet, pas seulement avec la position du soleil, retrouver des lieux. D'où les histoires de chats, de chiens qui ont parcouru des kilomètres pour retourner chez eux. Oui. En tout cas, Dieu s'amuse beaucoup à faire des êtres qui montrent quelque chose qui est bien supérieur. La révélation biblique nous dit qu'il y a un seul animal. Alors ça pouvait être un grand singe, comme vous voulez, mais Dieu lui met un esprit et le transforme. C'est Adam. Ensuite, il crée Ève, avec la guenon qui est à côté, ou avec la matière d'Adam, par une création directe. Mais qu'il y ait un homme, une femme, c'est un corps animal avec une âme, un corps animal avec une âme. Mâle, femelle, homme, femme. L'homme n'est pas créé androgyne. Il est homme, homme. Et donc, cette nature sexuée fait que, par notre instinct animal, nous sommes sensibles à tout ce que les autres mammifères, ce à quoi les autres mammifères sont sensibles. Sauf que nous n'aimons pas notre odeur. Nous avons une supériorité en ce qui concerne notre odeur. Nous nous lavons et nous nous lavons systématiquement. Oui. Tout ça, ce sont des preuves d'intelligence. Par exemple, on ne mange pas salement. On me dit, mais si, il y a certaines peuplades mangent salement. C'est pas vrai. Ils se mettent pas la nourriture sur le nez, sur les oreilles. Ils ont même des rituels pour manger. Alors, ils vont manger avec les mains, peut-être, mais c'est pas... Nous, ça va nous sembler primitif, mais ils ne mangeront jamais comme les animaux. Ils ne boivent pas en lapant des flaques d'eau. Ils prennent des bols. Tous. Ou leurs mains. Et donc, je vais très loin, n'est-ce pas, mais pour insister sur cette particularité de la nature humaine, les animaux n'ont peur que d'être attaqués lorsqu'ils font leurs besoins. Nous, on sait qu'on est plus digne que ça. C'est pas seulement notre instinct de peur, parce que dans ces moments-là, nous sommes vulnérables. Nous avons une pudeur et qui vient. On sait qu'on est d'une dignité différente que les animaux. Alors vous allez dire, mais non, mais si. D'ailleurs, grâce à la sociologie, à tout ce qui a été fait par des sociologues qui n'étaient pas croyants d'ailleurs, on est allé voir des peuplades partout au fond de la terre, au fond des forêts, et on a vu qu'ils avaient tous une vie sociale, et qu'ils avaient tous une toilette, qu'ils avaient tous qu'ils avaient un comportement digne. Alors vous allez me dire, oui, mais ils faisaient des sacrifices humains, ou ils faisaient certaines scarifications, tout ça, mais ça c'est la cruauté humaine. Et c'est toujours réfléchi. Et alors, de se dire que cette humanité est partie d'un point et s'est répandue à travers le monde, à travers l'histoire qu'on a biblique, à partir de Noé, Sem, Cam, Japhet, de tous ceux qui sont partis en Europe, en Asie, qui ont passé le détroit de Bering, qui sont descendus sur toutes les Amériques, ceux qui sont partis en bateau, qui sont allés à Bornéo, qui sont allés en Indonésie, qui sont allés en Australie, c'est l'humanité, et non pas de différentes souches, mais exactement le même ADN, le même sang. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Nous sommes d'une nature humaine unique et les micro-évolutions qui font qu'on a la peau concentrée blanche ou concentrée noire, le nez d'une telle manière, les oreilles d'une autre, les cheveux crépus ou les cheveux durs, c'est accidentel et tellement fin dans l'humanité qu'on ne sait pas dans la chaîne d'acides aminés qu'est-ce qui fait quoi. Et pourtant, je peux vous assurer qu'actuellement, il y a des scientifiques qui vont peut-être un jour trouver pourquoi on a les cheveux crépus. Mais on ne sait pas actuellement dans les chromosomes et dans l'ADN où c'est. Donc ça veut dire que c'est un enchaînement d'acides aminés. Lorsque du tri de nos chromosomes entre l'homme et la femme, à un moment donné, ça a donné cette spécificité et c'est tout. Ensuite, vous voyez de pays en pays des spécificités qui se sont gardées. Quand vous voyez la pommette des Slaves, tout ça, vous vous dites, c'est quoi? Ben oui, ce sont des peuples qui sont restés dans ces contrées ensemble. Et cette particularité de leurs ancêtres, qui était peut-être une dizaine quand ils sont arrivés, parce que le père, le patriarche et la mère avaient cette particularité, ben tout ce peuple a cette particularité. C'est là qu'on voit, vous voyez, que l'histoire humaine est assez impressionnante de diffusion et en même temps de nomadisme et en même temps de sédentarité. Et donc là-dedans, les hommes ensuite se posent pas seulement la question d'être propre, de se respecter, de s'occuper de leurs enfants pendant des années et des années comme aucun animal le fait, de bien vivre, que les enfants aiment leurs parents quel que soit le nombre d'années, que les petits-enfants aiment leurs grands-parents. Et tout ça, ça forge la vie humaine. Vous allez partout dans le monde, dans toutes les sociétés possibles imaginables, vous avez cette famille, cette longue famille, qu'on n'observe chez aucun animal. Aucun animal n'a de respect pour ses parents après le sevrage. Aucun parent n'a de respect pour ses petits après le sevrage. Plus rien, rien du tout. Peut-être pas d'agressivité, mais de l'indifférence totale. On ne parle même pas des grands-parents. Ça n'a pas de sens chez l'animal. Pourtant, sur les calendriers de la poste, on vous mettra des images merveilleuses pour les petits, mais ça dure un temps. Et nous, on est vraiment différents. Tout cela, voyez-vous, pour vous dire et redire que dans le mariage religieux, c'est un mariage qui se pose des questions sur la nature humaine. Vraiment et fondamentalement. Alors, cette nature humaine telle que nous l'approchons petit à petit, voyez-vous, un homme, une femme, qui s'attachent l'un à l'autre pour s'occuper de leurs enfants, et c'est là que se trouve la fidélité, c'est là que se trouve l'importance que le père et la mère soient ensemble pour éduquer leurs enfants, et la faiblesse humaine de la querelle, de la dispute et de la séparation. Et du divorce. C'est une faiblesse qui, de nos jours, est de plus en plus répandue, mais qui n'est pas le souhait naturel, familial. Même si un divorce, entre guillemets, se passe bien, eh bien, il y a un souhait profond que notre père et notre mère ne se soient pas séparés. Ensuite, ça peut se passer d'autant plus que de nos jours, on est de plus en plus... on l'accepte de plus en plus. Mais il y a quelque chose qui, en nous, un souhait naturel profond et spirituel. Alors, pour ce qui est justement de cette réalité naturelle, la différence sexuelle est fondée dans notre corps animal et nos instincts, mais elle est surélevée par notre amour spirituel qui dure des années et des années et qui est capable de compréhension et de pardon et de tirer les choses par le haut. Ce qui fait que nous verrons les grands piliers du mariage qui sont la liberté, c'est-à-dire nous ne sommes pas attirés instinctivement absolument, nous réfléchissons et nous choisissons. Et quand bien même dans les siècles passés il y avait des mariages arrangés, il y avait en quelque sorte une part de liberté qui était de faire confiance aux aînés. Parents, grands-parents, comment ça s'appelait les personnes qui mariaient les gens ?
Les
entremetteurs, les entremetteuses.
La vieille tante.
Voilà. Et en fait, on leur faisait confiance, on leur remettait la providence. Et je vous ai dit que dans les communautés indiennes actuellement, tamoules, c'est le cas encore. Et là où ils nous font le pied de nez, c'est-à-dire, mais nous, nos mariages tiennent autant que les vôtres. Comment ? Oui, mais bon, ça reste quand même quelque chose qui est difficile vu l'atmosphère générale qui les entoure de plus en plus. Il faut quand même que... Parfois, en effet, ils les ont vus par Skype 3 ou 4 fois, donc c'est un peu embêtant. Mais qu'est-ce que Dieu a voulu sur cette nature humaine. Parce que voyez-vous, les hommes ont conçu des manières d'être à travers les siècles. Ils se sont dit, peut-être que c'est le soleil qui nous a donné la vie, ou la lune, ou un serpent à plumes, ou un éléphant, ou un fleuve, ou un crocodile, ou un singe, ou un aigle, ou un veau. Vous voyez ? Oui, mais c'est parce que ce sont des animaux qui sont peut-être des copies de Dieu, qui nous a engendrés, comme une vache. Mais comme on vit de la vache, et qu'on la mange, et qu'on en prend le lait, pour les Égyptiens, c'est le dieu Apis. Et d'autres vont considérer que Dieu est partout, que tout est Dieu, que l'arbre est Dieu, que les herbes sont Dieu, que la vache est Dieu, que le ver de terre est Dieu, et donc on ne doit pas manger. Mais manger, hein, quand on est quelque chose.
Je vais le faire.
Sûr, hein ?
Facilement.
Je ne vais pas. Et donc, cette attente d'un signe de Dieu, c'est la religion. On sait qu'on ne vient pas du hasard, et c'est pour ça que je vous ai déjà dit que les peuples autour de nous ne comprennent pas les Occidentaux. Hein. Dieu n'existe pas. Ils viennent du hasard. Ils disent qu'ils viennent du hasard. Mais c'est exactement comme si je vous disais que j'avais cueilli ce téléphone sur un téléphonier. Ça les fait rigoler de la même manière. Ils disent, ils sont complètement idiots. Enfin, ils disent pas quand même que ce téléphone n'a été fait par aucun ingénieur et aucun ouvrier qui l'ont assemblé. Et ils disent que ça a été fait par hasard. Ça n'a pas été fait par hasard. Il y a un ingénieur, il y a des années et des années de conception. Et ça, c'est, il faut le hasard et des milliards d'années pour faire une main. Non, mais c'est pas sérieux.
C'est très extrême comme position,
justement. Ben oui. C'est absurde. Enfin, les autres peuples se moquent de nous.
Non, mais il y a certaines personnes qui sont complètement athées, mais qui croient à une force.
Oui, force. Mais moi je vous parle de ce qu'on dit à la radio, à la télévision, dans les feuilletons et à l'école. À l'école, on dit c'est le hasard et le temps. Et on ne parle pas de Dieu, hein. C'est jamais déiste à l'école. Hein.
Oui, on n'en parle pas.
Oui, mais moi, vous êtes en train de me parler de personnes qui, dans la vie courante, sont déistes ou panthéistes, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il y a une énergie cosmique autour de nous. Vous voyez, la force, hein, les midi-chloriens, vous savez, dans la guerre des étoiles, vous avez ce sont des petites bactéries intelligentes qui font des prophéties et qui concentrent l'énergie cosmique, les midi-chloriens. Et c'est... Pauvre George Lucas, il pouvait pas. Il n'a pas pu faire un film totalement athée, donc il a fait des milliards de dieux. Il dit, oh non, Anakin Skywalker, il y a une concentration de petites bactéries divines extraordinaires. Ben, c'est ça en fait, les midi-chloriens. Wow, il a 20 000 midi-chloriens comme Yoda. Oh, non. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'attribuer l'intelligence et la volonté à Dieu. Vous voyez, c'est Avatar, même exemple. Hein. L'Américain, il prie Aiwa. Et l'arborigène leur dit, mais non, c'est Aiwa, c'est Aiwa, c'est le cosmos, c'est la planète. C'est... Si tu entends les âmes qui sont mortes, c'est qu'elles sont en Aiwa. Mais déjà, si on les entend parler, ça veut dire qu'elles ont une persistance personnelle. Donc Cameron fait déjà un accro au panthéisme, où tout devient énergie, impersonnelle. Donc c'est déjà plus du bouddhisme, son film. Du bouddhisme pur, en tout cas. Parce que les peuples bouddhistes, je vous ai déjà dit, qui divinisaient Bouddha et qui pensaient que leurs ancêtres existaient encore probablement. Enfin, vous voyez, le pur bonhomme qui dit « Oh, ben, ma grand-mère, maintenant, elle doit être un ver de terre ou une fleur. » Ils ont un culte des ancêtres, hein, les peuples asiatiques. Hein, donc c'est pas très net. Hein, leurs religions sont très très mêlées. Et puis donc ils prient Aiwa, et puis le lendemain vous avez tous les animaux qui attaquent l'armée américaine. Et l'autre dit elle l'a exaucé. Elle, c'est Gaïa. voyez. Donc là, en ce moment, Gaïa, on est en train d'étouffer avec du carbone, tout ça, des gaz à effet de serre. Pauvre Gaïa. Alors un jour, Gaïa, elle va nous parler. Hein, alors je sais pas comment, où est sa bouche. Hein, c'est une grosse boule bleue, hein, quand même. Dit, oh, vous me faites du mal. Ou alors elle a une belle voix gentille, féminine. Oh, vous n'êtes pas gentil avec moi. Voilà. Voilà, c'est Gaïa. Oui, mais la religion Gaïa, voyez-vous, dont certains sont presque fidèles, tout ça, ça n'explique pas que cet œil décrypte les longueurs d'onde des photons et transmette un courant électrique dans le nerf optique jusqu'au cerveau où ces images sont décryptées avec des milliards de couleurs et en 3D. Enfin, quand même. Si je vous donne des lunettes 3D du Grand Rex et que je vous dis je les ai cueillies sur un lunetier, hein, ça nous économise 1 euro à chaque fois que je prends ces lunettes 3D sur l'arbre que j'ai fait pousser dans le jardin du presbytère. Et là, l'ouvreur, il nous dit ah bon, c'est oui. Personne n'a conçu ces lunettes, c'est par hasard, c'est des milliards d'années par contre. Hein. Et non, l'arbre, hein, il en a. Hein, c'est... Il en a discuté avec l'oranger, lui qui faisait que des oranges. C'est, voilà. Mais oui, mais j'aime bien raisonner par l'absurde. À cause de notre origine intelligente. Mais alors le problème, c'est que si Dieu, justement, est un être intelligent, comment ça se fait qu'il ne parle jamais à ses enfants ? Vous voyez, j'ai un ami qui a 41 ans, a demandé le baptême parce qu'il dit c'est pas possible que Dieu n'ait pas fait une religion. C'est-à-dire qu'il n'ait pas relié l'homme à lui, qu'il n'ait pas fait signe. Un Dieu muet, c'est pas... Alors peut-être que les hommes vont pouvoir deviner.
Mais même. Il considérait que le baptême c'était. Je sais pas compris.
Alors, premier raisonnement. La création, tout ce qui nous entoure a été fait par quelqu'un d'intelligent. Pour lui, c'était une évidence. Ensuite, cette personne intelligente est forcément rentrée en contact avec nous. Parce qu'il nous a créés et nous, on parle tout le temps entre nous. Comment Dieu peut-il nous regarder comme ça, gentiment, sans jamais nous parler ? Dieu a fait une religion. Et quelle religion, alors ? Quelle est la vraie religion ? Et donc, il a étudié toutes les religions.
Il s'est dit
que la plus claire, la plus limpide et la plus humaine était le christianisme. La plus humble aussi, parce que c'est un Dieu qui se laisse tuer par ses enfants, par ses créatures. Et Jésus dit à Pilate, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi.
» Pilate, je peux le tuer, je peux le crucifier, le flageller, tout ça, et il est en train de me dire qu'il a aucun, que j'ai aucun pouvoir sur lui.
Enfin, oui.
Vous voulez dire que c'est l'homme qui a créé les religions et que Dieu a choisi les religions ?
Non. C'est-à-dire que parmi toutes les religions que l'homme a inventées pour se donner bonne conscience, il y en a une qui est forcément vraie et dont l'origine n'est pas de l'homme, mais de Dieu, qui entre en contact avec l'homme.
C'est la révélation.
Oui, mais une vraie religion, la vraie religion, est forcément liée à des miracles, à une intervention divine. Une religion sans miracle est une religion forcément inventée par l'homme.
Mais sauf que nous, dans notre religion, on n'est pas obligé de croire aux miracles.
Si.
Si, ça, ben oui, voilà, on est obligé.
Mais si.
Ah bon,
vous pensez
que...
Ah, non, tous les miracles de la Bible, vous êtes obligés. Ah bah ça, ça en fait environ quelques milliers.
Après, il y a des gens qui inventent des miracles, après ils sont reconnus par l'Église.
Ensuite, depuis 2000 ans, vous êtes obligés de respecter le jugement de l'Église sur les miracles authentifiés.
Voilà.
Et on vous interdit d'exprimer en public votre scepticisme sur les miracles reconnus par l'Église. Par exemple, si l'un d'entre vous pense que la Vierge Marie n'est pas apparue à Lourdes, l'Église lui demande de se taire et de le garder pour lui. Ce n'est pas nécessaire pour son salut. Il peut dire « Oh, pourquoi Marie aurait parlé à Bernadette et tout ça ?» D'accord. L'Église vous dit « C'est pas biblique, Vous n'êtes pas contraint d'y croire. Mais vous, si quelqu'un vous dit « C'est merveilleux, Marie est apparue à Bernadette, il y a eu 69 miracles jusqu'à présent, reconnus par l'Église et reconnus par la médecine comme un, comment dire, inexplicable, et que le corps de Bernadette, dont on a ouvert le tombeau plus de 30 ans après sa mort, était souple et pas décomposé, alors que le caveau était moisi, humide, et que la momification d'un corps humain ne se passe que dans des conditions extrêmement précises, d'anaérobie particulière, dans les Andes, dans les déserts, ou, et encore, il y a des moisissures. Est-ce qu'elle, il n'y avait aucune moisissure, rien, enfin c'était impressionnant. On a même ouvert, même ses viscères étaient intacts, hein, et souples. C'est complètement fou. Il y a un protestant qui a dit, hein, ah, le Padre Pio, c'est impressionnant. Hein. Il dort.
C'est dingue, il est en train de dormir.
Non, mais attendez, son visage est son vrai visage. C'est son vrai visage.
C'est vrai que...
Moi, on l'a vu, c'est en
fait. Ça, vous savez, à la face du monde, quand même. Voilà, moi j'aimerais pas être à la place d'un médecin. Vous voyez, c'est une photo qui a été prise il y a...
Dans les mais c'est vrai que quand on voit aujourd'hui...
Vous voyez, regardez, je ne voudrais pas vous faire peur, mais il est mort depuis 46 ans, 47 ans.
C'est vrai que c'est...
Et cette photo a été prise il y a 4 jours.
C'est vrai que c'est très très impressionnant, parce qu'on voit tout le visage et on voit vraiment les traits du visage. C'est pas... On ne se dit pas que c'est de la cire, c'est vraiment du...
Tu veux parler de sa vie?
Et sa vie où il lisait dans les âmes, et puis il avait les plaies du Christ. Mais voyez-vous, donc pour revenir à, pour nous, ce qui est important, c'est de se dire que si Dieu est entré en contact avec l'homme, comment et à qui, avec qui? Vous voyez, si c'est Bouddha, mais Bouddha vous dit: tout désir d'être personnel est une souffrance. Vous devez essayer d'atteindre à ne pas exister personnellement et entrer dans l'être universel. Le terme est de ne pas retrouver nos parents, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs qui meurent avant nous. Le but, c'est de souffler tout désir d'existence. Et voilà. Et donc le bouddhisme, c'est ça. Fondamentalement, c'est ça. Ensuite, les peuples bouddhistes, je vous ai dit, font des processions, demandent des grâces à Bouddha, alors que lui est censé avoir atteint cela. Bouddha est censé ne plus exister, personnellement. Alors il y a le petit véhicule, justement, c'est Bouddha qui est dans le cosmos. Et le grand véhicule, c'est les avatars de Bouddha. Et dans le bouddhisme tantriste, c'est carrément le Dalai Lama, c'est Bouddha. Qui revient, par pitié pour les hommes, pour leur apprendre à atteindre son détachement. Ben oui, mais enfin, quand ils vont de famille en famille et qu'ils piquent les bébés ou les enfants de 3-4 ans pour avoir des moignons, ben nous, si on faisait ça, ça rigolerait moins en Occident. Et on n'a jamais fait. Mais si vous aviez des moignons de 12 ans, 14 ans, qui étaient pris à leur famille et tout, oh. Arrêtons de comparer la dureté des mœurs de tel ou tel siècle avec fondamentalement la religion chrétienne. La religion chrétienne n'a jamais demandé à ce qu'un enfant devienne moine ou prêtre petit. C'est toujours le fait d'un adulte et d'une volonté libre. Eh bien, voyez-vous, donc, s'il y a une religion vraie, cette religion vraie dit quelque chose sur le mariage. Eh bien, jusqu'à Moïse, la monogamie est le propre de ceux qui descendent de la religion adamique. Et c'est une décadence humaine, la polygamie. Et c'est uniquement dans ce sens-là. Vous avez peut-être trois peuples dans le monde, de quelques milliers d'ailleurs de sujets à chaque fois. Je crois qu'il y a une île où il y a un matriarcat qui s'est installé, où les une femme à plusieurs hommes. Et pour des raisons sur cette île, c'est une raison de pêche, de machin, enfin, c'est très particulier. La polygamie, c'est l'homme qui a plusieurs femmes. Moïse est descendant d'Abraham. Abraham va être polygame. Sa femme est stérile, ou lui est stérile, et il prend une femme de second rang. Mais Abraham est officiellement celui à qui Dieu va parler pour faire garder la foi en un Dieu unique, personnel et incorporel, esprit, au milieu de peuples païens qui avaient fini par considérer la divinité comme avec superstition et qui voulaient la santé et l'argent, le bonheur temporel. Mais tout ce qui était bonté, pardon, était écarté de plus en plus. Jusqu'à offrir des bébés, des enfants, des adultes pour apaiser les dieux. Parce qu'on avait peur des dieux à cause des catastrophes naturelles, à cause des mauvaises récoltes et à cause de la mortalité et de la maladie et des épidémies. Mais on a gardé de cette révérence vis-à-vis de Dieu les prières pendant les épidémies, les prières pendant les famines, les prières pendant les sécheresses. Parce que Dieu peut-être, comment dire, peut nous aider plus que les lois de la nature à certains moments. On a gardé ce lien avec Dieu de supplication. Mais la réponse de Dieu va être à Abraham de lui mettre à l'épreuve et de lui demander son fils. La réponse de Dieu va être d'être très sévère avec le peuple qu'il va choisir et que Moïse va tirer d'Égypte. La réponse de Dieu va être de promettre le salut par un homme providentiel qu'on appelle le Messie, l'envoyé, ou le Christ, le oint, celui qui reçoit l'onction. Une onction d'huile, n'est-ce pas, qu'on versait sur la tête des prêtres, des prophètes, des rois, pour montrer que Dieu prenait possession de la personne pour une mission particulière. Et donc, le peuple juif, depuis Abraham, environ 1700 ans avant Jésus-Christ, Abraham, lui, rencontre le roi de Jérusalem, qui n'était pas juif, n'était pas sémite, qui s'appelle Melchisédek et qui a la même foi qu'Abraham. C'est la foi dans l'unique Dieu et non pas dans plusieurs dieux ou dans des créatures divinisées. Et donc le peuple juif a au cours des siècles attendu les promesses de la venue de cet enfant. Et à la limite, ils pouvaient croire qu'il arriverait directement adulte. Ils voulaient le sauveur. Et les juifs ont eu tellement de péripéties, de guerres, d'occupation, de libération, d'autonomie, de dépendance, qu'ils avaient fini par demander à Dieu un Messie triomphant et général d'armée. Et quand Jésus va venir, il va d'abord naître dans une famille pauvre, descendant, suivant la prophétie, de la famille royale de David 1000 ans plus tôt, mais une famille royale dépossédée de ses droits et disséminée avec des membres qui avaient dû prendre les métiers d'éleveur ou de charpentier comme Joseph, qui était de la famille de David. Mais toute la famille royale n'avait pas pu tenir le rang royal. Et pourtant, ça s'accomplit, la prophétie s'accomplit. Et Marie, qui est de la famille de la tribu de Juda par sa mère, se retrouve être la mère de ce Messie, et Joseph, son père nourricier, son père adoptif. Là, il y a un miracle. Et ce miracle est tellement important que encore maintenant, il est central. On peut toujours l'attaquer. Mais Dieu nous met une pierre blanche devant nous en nous disant « Cet enfant est né sans homme. » Alors on pourra le nier. Mais seulement, il faut expliquer pourquoi Jésus a ressuscité 3 morts et a guéri des milliers d'estropiés, d'aveugles pendant 3 ans. Et d'ailleurs, ses contemporains, en fait, ils étaient amers parce qu'ils se disaient « Mais il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. » Mais seulement, il vit pauvrement, il ne prend pas la tête d'une armée. On attendait un messie guerrier qui allait nous libérer de la énième occupation, et là c'était l'Empire romain. Une forte, forte déception. Ils savent, ils voient bien que c'est l'envoyé de Dieu. Et puis à un moment donné, alors il fait quelque chose d'étonnant, il dit, il pardonne les péchés, en disant pas que Dieu te pardonne, mais tes péchés sont pardonnés. Et là, les prêtres, les croyants, les juifs pieux disent, mais tu peux pas pardonner les péchés, il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Et Jésus répond toujours par un miracle à cette question. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends tes grabats et pars. Donc vous avez le paralytique qui était là, hein, et le bon Dieu lui refait ses cartilages, ses muscles, parce qu'il faut qu'il prenne son grabat et s'en aille. Alors que si vous êtes déjà occupé quelqu'un en fauteuil roulant, je peux vous assurer que quand bien même il serait miraculé d'une partie de son corps, il faut que les muscles, il faut qu'ils soient regonflés, hein, parce qu'ils fondent. Hein. Et quelqu'un qui a été alité pendant 5 mois, il faut une rééducation, ses muscles ont fondu. Hein, et donc tous ces miracles étonnent, et la religion chrétienne est fondée sur ces miracles, qu'on le veuille ou non. Hein. L'aveugle né qui est là, et qui le Christ lui fait de la boue sur ses yeux. C'est une référence à la Genèse, je vous ai tiré de la boue. Je vous ai tiré du limon de la terre. Enfin, il demandait à un oculiste de rendre la vue à quelqu'un avec du torchis ou je sais pas quoi. Enfin, ça va pas marcher. Vous voyez, cette histoire même. Aujourd'hui, nous sommes le 11 février. C'est vrai que c'est impressionnant de se dire que vous avez une personne qui avait une sclérose en plaques, qui était en fauteuil roulant et qui va à Lourdes. Vous connaissez la plaisanterie de Lourdes. Hein, il y a un paralytique qui va aux fontaines de Lourdes, on le met dans la fontaine, donc normalement on met la personne sans nue avec un drap, hein. Et là on le met avec son fauteuil roulant et quand il ressort il a des pneus neufs. Et ben, là voyez-vous, on en rit, mais seulement